Chapitre 34. Roman rentra à la maison au bout de 2 jours. Il avait passé ses 48 heures en compagnie de Jealousy, à essayer de se frayer un chemin à travers cette nouvelle réalité où son petit frère était mort et où sa sœur ignorait ses appels téléphoniques. Il avait contacté Weldon pour qu'il fasse le nécessaire au département de médecine légale. Roman s'occuperait de la crémation, mais il ne voulait pas être celui qui récupérerait le corps de son frère sur un plateau en inox. Il s'en sentait incapable. Lorsqu'il poussa la porte, il vit que Nevea était assise à la table de la cuisine. Elle fumait à l'intérieur, ce qui n'était pas dans ses habitudes. En même temps, les anciennes règles n'avaient plus vraiment d'importance. Il la rejoignit. « J'ai essayé de t'appeler, » dit-il. « J'avais besoin de temps. » « Je comprends. Bon, et sinon, est-ce qu'on organise une cérémonie ? J'avais pensé faire ça au funérarium de Weldon, mais je sais pas. T'en penses quoi ?
Je ne voulais pas te l'annoncer par téléphone, » commença Nevea, avant de tirer une longue bouffée sur sa cigarette.
« Mais papa est mort dans la nuit. Une rupture d'un anévrisme de l'aorte abdominale, apparemment. » Son ton était neutre, mais elle avait les yeux écarquillés.
« Attends, qu'est-ce que tu racontes ?»
fit Roman. Il crut qu'il allait s'évanouir. La cuisine tournait autour de lui, et il avait l'impression qu'un énorme poids lui compressait la poitrine.
« L'hôpital m'a appelé ce matin, » expliqua Nevea. « Comme je te disais, je voulais pas te l'annoncer par téléphone. »«
Qu'est-ce qui a causé l'anévrisme ?»«
Aucune idée. Peut-être que quelqu'un lui a donné de l'aspirine alors qu'il était sous anticoagulant. » « Va savoir. »
Roman regarda sa sœur. Elle le regarda. Un doute s'insinua dans son esprit, et il s'efforça de le chasser. Non, il ne pouvait pas s'autoriser à penser une chose pareille. Pas là, ni jamais d'ailleurs. Roman se sentait de plus en plus mal. Il posa le front sur le plateau en bois de la table et tendit la main gauche vers sa sœur, qui la saisit. Avant de glisser quelque chose dans sa paume droite. Roman reprit ses esprits et regarda ce qu'elle y avait placé. Un morceau de métal doré tout tordu, avec un diamant en forme de cœur à une extrémité. Roman lâcha l'objet comme s'il était en fusion.
« Où est-ce que tu as trouvé ça ? »
demanda-t-il. Nevea se leva, ramassa un gobelet en papier sur le plan de travail et déversa les cendres sur la table.
« Il l'a tué, Rome !» rugit-elle. « Il l'a tué !» « Et il a foutu ses cendres et sa bague dans un pot à cookies, putain !»
Roman s'écarta de la table, s'écarta des cendres et se leva à son tour.
« Qu'est-ce que... »«
Il l'a pas tué, »
chuchota-t-il, incapable de détourner le regard du petit tas de cendres.
« Mais ouvre les yeux, merde ! C'est sa bague ! C'est ses cendres ! C'est notre mère, là ! Ce taré l'a conservé au-dessus du frigo !»
Le visage de Nevea n'était plus qu'un masque de haine.
Il l'a pas tué, répéta Roman.
Mais qu'est-ce qu'il faut, putain ? T'as la preuve sous les yeux et tu continues à nier l'évidence ? Tu continues à le défendre ? Il a assassiné notre mère !
Roman capta le regard de sa sœur.
Je te dis qu'il y est pour rien, insista-t-il. C'est pas lui qui l'a tué.
Nevea recula, horrifiée. Quand son dos heurta le rebord de l'évier, elle lâcha sa cigarette et se plaqua les deux mains sur la bouche. Roman la rejoignit et lui attrapa les mains.
« C'était un accident, » expliqua-t-il. « Elle est tombée. Et papa ?» Elle le trompait, alors la police l'aurait arrêté. Ou nous aurait arrêté, nous. C'était un accident. On se disputait et elle est tombée. C'était un accident. Il l'a pas tué, Nevea, il était même pas là. Dante a surpris maman avec Oscar et je... C'était un accident.
C'était la première fois depuis ce jour fatidique qu'il prononçait ces mots à voix haute.
« Je l'ai fait pour rien, alors ?»
murmura Nevea.
« Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ?
De quoi tu parles ? Lâche-moi ! »
gémit Nevea. Et elle poussa Roman pour s'élancer vers l'escalier. Roman resta planté au milieu de la cuisine, serrant et desserrant les poings, abasourdi. Au bout de quelques minutes, Nevea redescendit, un sac de sport à la main. Elle se précipita vers la porte et Roman lui courut après.
« Nevea ! Nevea, qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Nevea ! J'ai plus que toi et t'as plus que moi. Où tu vas, s'il te plaît ? Je t'en prie, y a plus que nous !»
Nevea se retourna.
« Dans ce cas, on n'a plus rien. Je n'ai plus rien. Y a plus rien. »
Elle claqua la porte. Quelques instants plus tard, il entendit le pick-up démarrer et s'éloigner. 26 octobre, soir. Roman se tient au centre de la pièce, entouré de D-Train, Corey, Tank, les jumeaux Bang Bang et le reste des Black Baron Boys. Il leur explique comment il compte réinjecter leurs profits dans sa firme afin de rendre leur argent blanc comme neige. Il leur annonce qu'il va retourner quelque temps à Atlanta et qu'en attendant son retour, c'est D-Train qui sera aux commandes. Il leur dit que quand il reviendra, avec Khalil, ils les aideront à refonder les BBB en profondeur, qu'il n'y aura plus de fusillades en pleine rue, que leurs actions seront désormais ciblées et efficaces, qu'ils adopteront un esprit d'entreprise pour gérer le business, que dorénavant, les nuits seront calmes à Jefferson Run. Et alors qu'il leur raconte tout ça, il pense au coup de téléphone que lui a passé Khalil la veille au soir pour lui annoncer qu'il avait retrouvé l'associé véreux de Liv Glock et que, avec l'aide d'un rasoir et d'une bouteille de désinfectant, il l'avait convaincu de rendre l'argent qu'il avait volé. Corey lui demande ce qu'ils sont censés faire par rapport au Ghost Town Crew. Apparemment, une rumeur dit que les rescapés chercheraient à se reformer. Roman s'approche de la boîte de crémation posée sur le chariot et soulève le couvercle. Il enfile alors un gant en caoutchouc, plonge la main dans la boîte et en sort la tête d'Ernesto Salazar. « Ce n'est plus un problème », déclare-t-il, avant de jeter la tête dans la boîte et de pousser celle-ci dans le four. Il reprend sa place au centre du demi-cercle et explique qu'il compte engager du personnel pour travailler au crématorium. Sa sœur n'est plus la gérante de Carruthers Cremation Services. Désormais, si les BBB ont besoin de recycler leurs déchets, ils doivent faire appel à lui et à lui seul. « Le feu détruit tout », récite-t-il. Et alors que les mots quittent ses lèvres, il pense à son père, à son frère, à sa mère. Derrière la paroi en verre trempé, il voit les flammes qui s'épanouissent telles des roses rouges et oranges, dévorant le corps de Salazar comme elles ont dévoré ceux des trois personnes qu'il aimait le plus au monde. Il pense à Nevea, un amour noirci, cloqué, réduit en cendres. Corey lui demande autre chose et Roman se tourne vers lui. « Tu poses beaucoup de questions, » dit-il. « Ce n'est pas nécessaire. Je suis en train de vous expliquer comment les choses vont fonctionner à partir de maintenant. Je suis en train de vous expliquer comment, grâce à moi, vous allez tous devenir riches. Si tu continues à me poser des questions, tu risques de m'agacer. » Et si tu m'agaces, tu risques de finir dans une de ces petites boîtes, » conclut Roman en jetant une urne en plastique aux pieds de Corey. Corey reste silencieux. Alors que Roman s'apprête à reprendre son monologue, la sonnette retentit. Il ordonne aux membres des BBB de se taire et traverse le crématorium pour aller ouvrir. C'est Jealousy. Elle entre. Elle lui demande s'il a croisé ses frères. Après la cérémonie en l'honneur de Dante et de son père, il a emménagé avec elle. Il lui a annoncé qu'il comptait vendre la maison, et elle trouve que c'est une bonne idée. Elle lui confie qu'elle n'était pas inquiète de ne pas avoir de nouvelles pendant quelques jours, mais que maintenant, ça fait 2 semaines. Le jour où il s'est présenté chez elle en larmes, Roman lui a expliqué qu'il ne travaillait plus avec eux. Et il n'a pas menti. Il a récupéré le royaume de Torrent et Tranquil et se l'est approprié. Il ne travaillera plus jamais pour quelqu'un d'autre. Mais là, elle lui avoue qu'elle a peur. Elle sait ce que font ses frères, et elle a peur qu'il leur soit arrivé quelque chose. Et aujourd'hui, elle n'arrivait pas à joindre Roman. Alors elle est venue parce qu'elle avait besoin de le voir, tout comme lui avait besoin de la voir quand Dante est mort. Roman la prend dans ses bras et lui explique qu'il est en réunion avec les gens qui vont s'occuper de la gestion du crématorium, maintenant que Nevea est partie. Il la regarde droit dans les yeux et lui assure que ses frères finiront par refaire surface. Installe-toi sur le canapé et attends-moi, dit-il. Ce sera rapide. Quand j'aurai terminé, on ira dîner. Et demain, on ira voir la police. D'accord ? Il l'embrasse, et sans y penser, elle lui mord la lèvre. En public, ils sont ensemble. Peut-être même qu'ils seront bientôt fiancés, mais dans la chambre, dans le noir, elle est maman et il est son vilain petit garçon. Et elle aime ces deux versions de lui, plus qu'elle n'a jamais aimé aucun autre homme. « J'en ai pour 5 minutes », promet-il, en franchissant la porte qui mène à la salle de crémation. Jealousy regarde la porte pendant quelques secondes avant de ressortir. Il y a 4 voitures sur le parking. Elle les reconnaît. L'une d'entre elles, la Mercury Violette, appartient à D-Train. Elle sait qu'il travaille pour ses frères. Elle fait le tour de la bâtisse et s'avance vers le rideau métallique. C'est par cet accès que les corps sont livrés, lui a expliqué Roman. Elle s'approche d'une des petites ouvertures rectangulaires et jette un œil à l'intérieur. Elle voit l'homme qu'elle aime s'adressant à un petit groupe qui lui tourne le dos. Au fond de la pièce, le four crématoire est allumé. Des flammes oranges illuminent Roman par derrière, de sorte qu'elle ne voit de lui qu'une silhouette. Elle ne distingue pas son visage. Ces flammes qu'elle aperçoit à travers le verre trempé lui évoquent un tableau qu'elle aime beaucoup, mais dont elle a oublié le nom du peintre. La chute des anges rebelles. On y voit la défaite de Lucifer, qui estimait qu'il valait mieux régner en enfer que servir au paradis. Alors qu'elle scrute la scène à travers l'ouverture rectangulaire, elle repense à ce que lui a répondu son frère Terence, le jour où elle lui a demandé si l'homme qu'il lui a présenté ensuite comme un associé était un ami de la famille. « Le diable n'a pas d'amis. » Jealousy regarde l'homme qu'elle aime. Elle le regarde s'adresser à ces gens qui semblent le vénérer. Elle touche son ventre et pense à la possibilité d'une vie se développant à l'intérieur. Elle a 2 semaines de retard, alors qu'elle est réglée comme une horloge. Elle regarde par l'étroite fenêtre les flammes qui rugissent, derrière cet homme qui pourrait être le père de son enfant. Elle pense à ses frères, au voile de sérénité qui semble recouvrir Jefferson Run depuis qu'elle est sans nouvelles d'eux. À une phrase que lui a souvent citée Roman. Une larme coule le long de sa joue, tandis qu'elle murmure « Le feu détruit tout ».